Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Pour la 16e étape de ce Tour de France 2022, l'entrée dans les Pyrénées aujourd'hui, première étape pyrénéenne, il y en aura trois. C'est une sorte de mise en bouche aujourd'hui, mais sacrée mise en bouche tout de même, avec deux difficultés majeures. Le Port de l'Hers, que le peloton ne va pas tarder à aborder, plus exactement le groupe d'échappés. Port de l'Hers donc classé première catégorie. Et puis un peu plus tard dans l'étape, à 27 km de l'arrivée, il faudra aussi franchir le mur de Péguerre. Là c'est un peu plus court, mais ça monte beaucoup plus raide. On va retrouver la moto RMC avec Arnaud Souk qui se trouve à l'avant avec les 29 hommes de tête. L'écart est en train de légèrement redescendre. 7 minutes 26 désormais pour les 29 hommes de tête. Ça a l'air de bien s'entendre à l'avant pour le moment, Arnaud. Hein,
oui, pour l'instant, oui, ça s'entend bien, effectivement. Il n'y a pas de raison majeure pour l'instant, alors qu'on n'a pas vraiment abordé les difficultés. Tu l'as dit, il y a quatre difficultés dans cette étape. Les deux premières tout à l'heure étaient relativement insignifiantes et ont permis surtout à l'échapper de prendre son avance, mais ça risque peut-être de commencer à bastonner dès les premiers hectomètres du mur de Péguerre. C'est un col qui est relativement long, hein. Alors évidemment rien à voir avec les 25-29 km du col du Galibier dans les Alpes, mais on est quand même sur un col de 12 km à 7%, donc on pourrait déjà avoir des premières différences, hein, qui se créent. On a quand même pas mal de pédigrés différents, on va dire, dans cette échappée, entre les grimpeurs qu'on a cités tout à l'heure majoritairement dans les paris, hein. Je pense à Storer, à Martinez, à Woods, à Dylan Teuns, puncher mais très bon grimpeur également, et d'autres coureurs. Donc il risque déjà d'y avoir des différences qui vont se créer à ce moment-là. En tout cas, en termes de paysage, c'est vrai qu'on a un petit peu, ça a un petit peu changé, la physionomie a un petit peu changé. On commence à être dans des vallées un petit peu plus encaissées. On aperçoit la montagne et donc les premiers lacets des Pyrénées qui vont se dresser dans quelques kilomètres pour les hommes de tête sous le soleil. Et toujours la chaleur ici dans l'Ariège désormais.
Oui, nous sommes dans l'Ariège et vous allez être pas loin de Foix, mais il y aura une grande balade dans la montagne, donc pour escalader ces deux cols. On les appelle des ports, hein, ici, les ports avec un T, hein,
tout à fait.
Comme quand il y a des bateaux.
Ouais. Voilà. Ce sont des portes en fait, des passages.
Et le mur, là c'est autre chose, le mur de Péguerre tout à l'heure. Et puis, vous le savez, nous sommes déjà à la 16e étape. Toujours pas de victoire d'étape française. Peut-être aujourd'hui, les Français, justement, on en parle tout de suite dans la photo finish. Avec Pierre-Yves Leroux et sa musique de Kraftwerk qui va nous parler donc de ces Français. C'est arrivé quand même certaines années qu'ils ne mettent pas une étape au fond.
Non, mais je veux parler des Français parce que la qualité musculaire de nos coureurs vaut celle des autres. C'est leur mentalité, leur besoin de liberté qui viennent tout gâcher. Qui leur rendra la volonté de bien faire? Aux étapes, les nôtres restent bavardés après le dîner pendant de longs quarts d'heure que les adversaires, eux, emploient à dormir. Ils ont presque tous fait des étincelles, mais en ordre dispersé, sans méthode, au hasard. Les uns ont fui dans le début de la course, d'autres dans le milieu, quelques-uns vers la fin. Nous sommes là ce que nous sommes dans les autres sport, individualiste, indépendant, ne nous pliant à aucune discipline, à aucune méthode. L'insuffisance radicale de la production française doit représenter la principale préoccupation pour l'an prochain. Et c'est d'autant plus déplorable que 5 années durant, de 1930 à 1934, inclus, nos hommes ont su gagner le Tour de France. Bah oui, vous pensiez tout de même pas que j'allais m'adresser à Alexis Goujard, Adrien Petit ou Pierre-Luc Périchon en ces termes. Non, celui qui s'exprime ainsi en 1939, c'est bien Henri Desgranges, organisateur à l'issue du 33e Tour de France. Vous imaginez Christian Prudhomme dans une semaine: Monsieur les Français, bougez-vous, entraînez-vous, ce n'est pas possible de laisser indéfiniment aux étrangers un événement international de cette qualité. Mais je m'égare de l'Est. Car si Henri Desgranges est fumasse en 39, c'est parce que le maillot jaune est sur les épaules de Silver Mess, le Belge. Tout simplement parce que pour ce qui est des victoires d'étape, les Français en ont remporté 60%. Dans quel marasme national devrions-nous être aujourd'hui? Pas une victoire d'étape à l'horizon. Comme en 1926. 12 étapes pour les Belges, 3 pour Franz le Luxembourgeois et 1 pour Bartolomeo l'Italien. Les Français, 0, nada, nolla comme on dit en finnois, nothing, pshit, nul comme dirait Vingegaard en danois. Alors voilà ce que je propose pour motiver nos troupes. Une idée géniale, issue de mon brillant cerveau qui, soit dit en passant, mériterait le prix Nobel. Remettons au goût du jour des primes pour motiver nos petits gars. De la caillasse, rien que pour les mangeurs de grenouilles, afin de les voir lever lever les bras dès aujourd'hui en Ariège pour éviter la crise de foie. 100 francs anciens offerts par monsieur Cyril G de Guerre au premier Français qui passera à Massat. Arnaud S offre son poids en saucisse de Toulouse au Français qui passera en tête le mur de Péguerre. Jérôme C offre 2 francs suisses au Français qui terminera devant Wout van Aert. Il y eut donc 1926 et puis, paraît-il, 1999. Mais le souci, c'est que j'ai beau chercher cette année-là, certes, il n'y eut pas de victoire française, mais de toute façon, il n'y eut pas de victoire du tout. Qui devait être le tour du renouveau, 11 mois après l'affaire Festina, ne fut qu'un western spaghetti avec dans le premier rôle un cow-boy de pacotille. En 99, l'UCI avait déjà estimé que les traces de cortico retrouvées dans l'urine du parrain n'étaient que du pipi de chat. Personnellement, j'ai toujours préféré les Indiens aux cow-boys et les Armstrong qui jouaient de la trompette plutôt que du pipeau. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère.
Magnifique.
RMC
Intégral Tour.
Magnifique photo finish. Oui, ça serait peut-être une idée à creuser, ça, offrir des primes, Cyril, sur l'étape pour nos Français, pour les motiver à aller chercher une victoire. Je pense qu'ils sont motivés, mais c'est vrai qu'à l'époque.
Ça existait vraiment en 1926. Ouais. Hein, il y avait des primes pour les Français, offertes par des gens qui offraient 100 francs par-ci, 100 francs par-là, voilà, des admirateurs.
On pourrait
relancer ça, Cyril. Je traite bien des francs anciens.
Oui, non, mais les choses ont évolué. Je ne suis pas certain aujourd'hui qu'on puisse.
Qu'on ait le droit. Voilà, tout est réglementé.
Ben oui, puisque si vous prenez même chez les amateurs, les primes que vous pouvez aller chercher sur les petits critériums, ça rentre dans le calcul de vos points. Qui vont vous faire passer la catégorie au-dessus.
Parce que ça existait, ça aussi. La boucherie Sanzo offre 100 francs à celui qui passera le premier
oui,
sur la ligne.
Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme ça. Si vous prenez, par exemple, l'ensemble des prix qui sont distribués sur le Tour de France, eh bien, ça correspond à des grilles très précises, à des règlements très précis. Et puis, si vous êtes français, ça va un peu loin que ça, c'est que l'ensemble des prix que vous gagnez sont considérés comme des salaires. Donc, ils sont chargés. Donc, ce qui fait qu'en règle générale, les coureurs s'intéressent même plus au prix. La seule chose qui peut les intéresser, c'est d'aller gagner. Et c'est là où il y a le problème, c'est que pour l'instant, ils gagnent pas. Donc, c'est pas lié aux primes.
Oui. En attendant, ils gagnent pas.
Il faut savoir qu'en 1926, tu le disais, 12 victoires d'étape pour les Belges. Il y avait quand même seulement 25 coureurs à l'arrivée du Tour de France en 1926. Mmh. Et ne pas arriver à en mettre une au fond, quand même, c'était compliqué. Il y avait quasiment que des Belges et il y avait 5 ou 6 Français. Ouais. Et le premier Français, donc, avait terminé 7e. Georges Cuvelier. Terminé 8e, plus exactement. Voilà. À l'époque, c'était beaucoup moins international que ça ne l'est aujourd'hui. Il y avait des Belges, des Luxembourgeois, des Italiens, des Français, même pas d'Espagnols, un Suisse et un Italien. Voilà ce qu'il y avait au départ. Et à l'arrivée du Tour de France, c'est une autre époque. Hein.
Oui, bah, c'est pourquoi je veux dire, faut pas essayer. Alors on peut le faire sur l'anecdote, sur le côté historique, mais comparons les choses que l'on peut comparer.
Oui, mais justement, mettons 1926 de côté. En attendant, il y a eu que 1999, qui est aussi une année très particulière. On sort de l'affaire Festina, je le disais. Il y a Armstrong qui commence à faire régner sa loi. Ça serait quand même très marquant d'avoir à nouveau un tour sans victoire française. À quoi c'est dû ? Peut-être moins nombreux au départ voilà.
Ben, non, les Français sont plus nombreux que les autres au départ.
Oui, mais que les autres années. Est-ce qu'il y a
que les Français autres années,
c'est à peu près pareil.
Vous savez, les meilleurs sont là, à l'exception, on va dire, de
Julien Alaphilippe.
De un ou deux.
Arnaud Démare,
pour l'Espagne.
Oui, enfin, Arnaud Démare.
Il peut gagner. Non, mais il a déjà gagné sur le tour.
Il peut gagner, mais c'est quand même pas le coureur qui, à chaque fois qu'il est venu sur le Tour de France, a gagné.
Oui, mais c'est
pas le coureur qui, à chaque fois, est venu sur le Tour de France, a fini. Il a abandonné beaucoup de Tours de France. Donc, je pense pas que la référence de Mar soit la plus judicieuse par rapport à cela. Mais oui, on a aujourd'hui.
Enfin, quand les trois sprinteurs, les meilleurs sprinteurs français, quand aucun des trois n'est au départ du tour, c'est vrai que ça t'enlève au moins une chance. Boigny, Démare, Coquart, à eux trois quand même.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais on peut aller chercher tous les arguments pour justifier ou de contre-arguments pour justifier. Ouais. Alors, dites-moi combien Boigny il a gagné d'étapes sur le tour et dites-moi combien Coquart il a gagné d'étapes sur le tour.
Bah oui, c'est vite dit.
C'est vite dit.
Oui, mais on sait jamais, un jour ça peut arriver.
Oui, un jour ça peut arriver, mais pour l'instant c'est pas arrivé.
C'est vrai qu'on n'est pas certain qu'il soit capable de battre Wout van Aert ou Pedersen ou Philipsen.
Voilà, donc et puis bon, j'ai presque envie de dire, les absents sont pas là, donc ils sont pas là. Point. Et il y a d'autres coureurs qui les remplacent, mais aujourd'hui on n'a pas la capacité. J'ai presque envie de dire, le seul qui pourrait aller à la pédale véritablement chercher une victoire d'étape, c'est Goujard.
Eh oui.
Laporte, oui, à condition de bien. Et Laporte, mais bon, il est.
Thibaut Pinot quand même.
Et Benjamin
Thibaut
Thomas.
Pinot, quand même. Et Benjamin Thomas, qui est passé tout près à 450 mètres.
Oui, mais on n'en a pas 50. Oui. Mais celui qui est devant tous les jours, qui fait d'ailleurs quelque part n'importe quoi, sur le plan de la stratégie et de la conduite de sa course, voilà, c'est celui qui, sur ce Tour de France, moi, m'impressionne le plus. Oui. Mais pas que dans le bon sens.
Mmh. Mmh. On rappelle que Nasser Bouhanni a participé à 4 Tours de France. Il a abandonné à 3 reprises et donc n'a jamais remporté la moindre étape. On lui souhaite le meilleur établissement possible. Qui s'est...
Oui, parce qu'il est quand même sérieusement blessé. Sérieusement
et que Brian Coquard a fait 2 fois deuxième sur le Tour.
Ouais. Ok, tiens, Marc Madiot, interrogé justement hier sur le 0% de victoires françaises depuis le départ de ce Tour de France. Il nous explique les raisons, Marco.
0 victoire française, mais en même temps, il y a eu des bons comportements d'un bon nombre de coureurs français. Vous savez, les victoires d'étape, ça va, ça vient. Ça dépend des circonstances de course, ça dépend des parcours. Il manque quand même Alaphilippe, il manque Démare, et Pinot est passé pas loin à 2 reprises. Donc, bon, on ne peut pas sous-estimer les capacités des Français à réagir. Le sport cycliste s'est mondialisé. Il y a un niveau moyen extrêmement élevé. C'est le cas aussi pour l'Italie ou l'Espagne. On retrouvera forcément à un moment ou un autre le chemin de la victoire avec un coureur français. Et moi, je vois au sein de l'équipe, c'est pas l'obsession, c'est pas une obsession que ce soit un Français qui gagne. Dans la vie des équipes, on ne raisonne plus seulement en termes de nationalité, on raisonne en termes d'équipe.
Voilà, on raisonne en termes d'équipe. D'ailleurs, aujourd'hui, au sein de la formation Groupama FDJ, celui qui est à l'avant, ce n'est pas un Français hein, chez Groupama FDJ.
Il y en a.
Il y en a un. Il y en a deux. Et Storer qui est donc...
C'est un Breton.
Qui est pas Breton, Storer.
Non, Valentin Madouas. On accueille tout le monde, nous, tu sais.
Très bien. Ça va se préciser, puisqu'on est à 67 km de l'arrivée, que le peloton a 8 minutes de retard sur le groupe des et que Marc Soler, lui, est à 17 minutes. Je suis très inquiet pour Marc Soler. Ça va être très compliqué d'être dans les délais parce qu'il y a 2 murs à franchir, le port de Lers et le mur de Péguerre. Et ce port de Lers, on en a parlé, qui fait 11 km 400. Le sommet est à 53 km. Vous avez fait le calcul, 64 km. Ça veut dire que dans 2 km maintenant, les hommes de tête vont attaquer cette première grosse difficulté aujourd'hui en terrain ariégeois. Et on va sans doute avoir la vraie bagarre parce que c'est un trop gros groupe devant.
Allez, il est 15h18 sur RMC. On revient dans un instant justement pour les premiers lacets de la première grosse difficulté du jour, le port de Lers, que les hommes de tête vont aborder dans quelques secondes maintenant. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
15h20 sur RMC, la première difficulté du jour est abordée à l'instant même, le port de Lers par le groupe d'échappés, Pierre-Yves, avec 2 hommes qui viennent de s'échapper du groupe d'échappés d'ailleurs.
Oui, exactement, on le disait, ils sont trop nombreux, ça peut pas rester comme ça. 11 km 400 d'ascension dans ce port de Lers avec une pente moyenne à 7% et à l'avant, on retrouve Olivier Lega qui a décidé eh bien, de tout casser et c'est parti actuellement. Et Olivier Legac, le coureur de la Groupama FDJ, qui tente un coup, il a raison, puisqu'il y a 2 autres équipiers avec lui dans ce gros groupe. Donc voilà, première flèche pour les Groupama FDJ.
Oui, ça évitera ses coéquipiers de travailler derrière et peut-être qu'il anticipe un petit peu. C'est pas le meilleur grimpeur de ce groupe, Olivier Legac. Par contre, il est parti avec un costaud, hein, Damiano Caruso. Lui, c'est un très bon grimpeur. Il a l'air d'insister. Est-ce qu'il va réussir à le suivre jusqu'au sommet? Parce que Caruso, c'est pas un manche quand ça monte comme ça.
On verra. Pas pourquoi il a pas relais là.
Ouais, c'est ça, il demande le relais, mais est-ce qu'il va pouvoir? Et c'est difficile pour Alexis Goujard, Cyril Barthes de BNB Hotel KTM et Maxime Bouet.
Et Bisseger également qui a été lâché, donc voilà, ça fond comme neige au soleil, s'est échappé Arnaud. Est-ce que tu as un petit peu de visibilité? Il y a beaucoup de monde hein, sur le bord des routes, est-ce que tu arrives à te retourner pour voir ce qui se passe?
Je suis même aux côtés des coureurs. On aperçoit là, vous l'avez dit, donc Cyril Barthes et Alexis Goujard qui ont fait les frais. Les premiers avec Stéphane Bisseger de cette accélération. On a également Maxime Bouet. On a un coureur de l'équipe Lotto Soudal également qui a fait les frais de cette accélération. C'est Philippe Gilbert qui a du mal dès le début. Pardon ?
Oh, il est où, Flip ?
Il est plus en tout cas. En tout cas, il a fait les frais dès les premiers hectomètres de cette accélération. Il fait toujours très chaud. Je le rappelle, c'est quand même une donnée très importante. Et puis, on n'est pas du tout sur le même type de revêtement quand même que dans les Alpes, avec des routes un petit peu plus gravillonneuses qui rendent un petit peu moins bien, qui sont moins faciles pour rouler, pour développer son coup de pédale. Donc ça aussi, ça va peut-être avoir son petit rôle à jouer. On a également Groschartner en difficulté à l'arrière de ce groupe, ainsi que Nathan Van Nooy donc, et pour l'équipe Arkea Samsic, c'est Lucas Obsvian qui est également lâché à l'instant du groupe de tête. Donc voilà, vraiment, dès les premiers hectomètres, beaucoup de coureurs qui font les frais de cette accélération. Nils Seekhoff également.
Tu ne serais pas en train de ramasser les morts là, Arnaud?
Il y en a un paquet. Alors que Caruso est en train de lâcher le gars.
Tu ne serais pas en train de ramasser les morts avec la moto?
Là, il y en a un paquet, effectivement. Oui.
Caruso qui vient donc de s'échapper. Il était accompagné de Le Gac, mais le Français de la Groupama FDJ n'a pas réussi à suivre le rythme du grimpeur italien, Pierre-Yves.
Oui, c'est ce qu'annonçait Jérôme. Effectivement, on n'est pas sur deux garçons au même profil, avec les mêmes qualités. Et Caruso est parti. Je pense que c'est Michael Woods qu'on aperçoit derrière, qui vient lui aussi de passer devant Olivier Le Gac. Le maillot vert de Wout Van Aert n'est pas très loin. Valentin Madouas qui suit également. Et puis, le coureur de cette équipe UAE qui est là, c'est Brandon McNulty. Ça fait des dégâts, mais évidemment, il y a quand même encore dans ce gros groupe d'une trentaine d'unités des garçons qui vont pouvoir former un petit peloton. On devrait se retrouver derrière Caruso avec un petit groupe d'une dizaine d'unités.
Voilà, il creuse légèrement, Caruso, 10-12 secondes d'écart désormais avec Michael Woods qui est parti à sa poursuite. Et puis derrière, le groupe qui n'est plus du tout de 29, hein, Cyril, avec, tu le disais tout à l'heure, avec un petit sourire malheureux, beaucoup de Français qui ont lâché dès le début de cette attaque, hein, de cette ascension plus exactement.
Oui, puisque Goujard, c'est normal, puisque il est allé se promener devant tout seul tout à l'heure, ce qui servait strictement à rien sur un plan sportif, et son équipier Barthes ont été lâchés, et Maxime Bouet également.
Le pauvre Alexis Goujard, il fait déjà super chaud, mais il est rhabillé tous les jours par Cyril Guimard.
Non, c'est pour pas qu'il prenne froid.
Je le défends.
Avant-hier, on a loué les qualités de Goujard.
Non, Cyril a quand même expliqué que s'il se faisait lâcher par Benjamin Thomas, c'est parce qu'il avait fait un numéro auparavant. Non, tous les jours, il lui en remet une petite
peut-être
couche.
Peut-être essaye-t-il de faire comme avait fait Benamour l'année dernière, c'est-à-dire un statut de
super combatif.
Bon, allez, Caruso qui continue de creuser les écarts, désormais 21 secondes sur Woods et sur le reste des anciens, de ses anciens compagnons, Pierre-Yves.
Et toujours dans la détresse, Marc Soler, lui, à 20 minutes derrière. Et Jérôme, est-ce que tu as essayé de calculer un peu les délais aujourd'hui?
J'ai pas calculé précisément, mais ça va tourner entre 40-42 minutes, j'imagine. Donc il a déjà 20 minutes de retard. Il reste encore 63 km et les deux ascensions à effectuer. Ça va être très compliqué pour Marc Soler de rentrer dans les délais. Surtout qu'il a vraiment pas l'air bien. Il s'arrose. Ça va être très dur pour Marc Soler.
Ça serait bien que tu les calcules précisément, c'est quand même ton rôle tous les jours, non?
Ah bon? Ah bon, je vais
c'est
me mettre,
troisième
je
vais
l'homme,
te mettre
l'homme,
que
l'homme
tu
des, c'est l'homme des délais.
Incroyable, tu dois appuyer sur le bouton de Cyril Guimard.
Je suis le seul qui a permis autobus, c'est ça.
Et calculer les délais.
C'est le seul à avoir non, mais le Jérôme, excuse-moi, je vais être ton avocat. Merci. Quand on fait les paris, on a notre grand chef qui change les règles tous les jours. Puis d'un seul coup, tu te rends compte que tu as une mission dont on ne t'a jamais
c'est
parlé.
Ça, mais en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas les calculer. C'est pour ça qu'on est obligé.
Vous ne lisez pas vos contrats quand ils sont signés. C'est marqué, c'est indiqué.
Dans votre contrat, il y a quand même marqué doit donner au moins un pari réussi sur la fin
fait.
Du tour.
Autrement,
vous ne serez pas payé, monsieur Dupart.
Pierre va être viré, alors.
C'est fait.
J'ai encore
mais il faut suivre.
Oui,
c'est vrai, tu en as donné un avant.
Bah oui.
Moi, c'est pour aujourd'hui. Michael Woods qui est parti derrière.
Parce que toi aussi, tu risques d'être viré quand même.
Oui, c'est ça.
Tu en as zéro, là, je peux te dire.
Oh, là, j'ai la goutte de sueur, là. 62 km encore à parcourir. Un homme devant Caruso à 30 secondes. Le petit groupe avec Wout Van Aert. Le peloton, lui, est à 8 minutes. Attention, hein, il reste 9 km à parcourir dans ce port de l'Hers. Et il y aura encore le mur de Péguerre après.
15h26 sur RMC. Elle est dure, cette ascension. On n'est pas du tout sur la même configuration que dans les Alpes, Jérôme, avec ces cols pyrénéens qui sont plus courts que dans les Alpes, mais le revêtement n'est pas le même, et puis les pourcentages sont souvent plus élevés. Hein.
Oui, c'est vrai que les coureurs, c'est marrant, mais il y a souvent certains coureurs qui préfèrent un massif ou l'autre, qui préfèrent les Alpes ou les Pyrénées, parce que, comme tu l'as dit, les cols dans les Pyrénées sont un petit peu plus durs, un petit peu plus raides, c'est du gros grain, ça renvoie un peu moins bien, la chaleur n'est pas tout à fait pareille aussi. On verra, on pourra avoir des surprises, mais ce port de l'air, c'est difficile. Alors Caruso est parti à l'avant, attention, c'est encore très long, il reste 8 km. Là, c'est un peu plus simple, j'ai envie de dire, pour les coureurs, parce que c'est 36-15 la cuisse, hein. Vous êtes là, vous avez les jambes, vous êtes devant, vous les avez pas, vous passez par la fenêtre, terminé. Là, il n'y a pas d'histoire de stratégie. Soit on a les jambes, soit on les a pas, et on verra en haut de ce col qui a les jambes pour reformer un groupe d'échappés. Ça sera forcément les plus costauds de l'échappée initiale qui seront à l'avant.
Caruso qui continue de creuser, 33 secondes au dernier pointage sur le groupe maillot vert, mais il y a des hommes intercalés, Michael Woods notamment, et Storer, le grimpeur de la formation Groupama FDJ, qui est en train de revenir sur Woods, Pierre-Yves.
Oui, ils sont à 15 secondes derrière les deux hommes, et puis 15 secondes encore après, on retrouve Valentin Madouas, Dylan Teuns, Simon Geschke à la lutte, hein, vous le savez, pour le maillot à poids. Il y a aussi Philippe Gilbert qui est présent, Tony Galopin toujours dans ce groupe, Nathan Van Hooydonk, Wout Van Aert, on l'a dit, et puis Nelson Poles qui lui aussi lutte pour les points du meilleur grimpeur. C'est peut-être l'idée qu'il a derrière la tête aujourd'hui, Nelson Poles, en s'étant glissé dans cette échappée avec Simon Geschke. 8 minutes après les hommes de tête et notamment Damiano Caruso, il y a donc le peloton emmené actuellement par les Ineos et par les Arkea. On ne voit plus les UAE, on ne voit plus pour le moment non plus les Jumbo.
Alors, je ne sais pas s'ils roulaient vraiment ou s'ils voulaient placer leur leader au pied du col, hein. Le peloton attaque le col à l'instant même. Voilà, on a vu Hofstetter notamment replacer Nairo Quintana ou Lucro pour Geraint Thomas et Adam Yates. On verra si l'équipe Ineos maintient un gros tempo à l'avant du peloton ou pas. Je pense que là c'était vraiment pour replacer les leaders. On verra si l'équipe Jumbo reprend la barre, mais qui va reprendre la barre finalement chez eux? Christophe Laporte a roulé tout le début d'étape. Est-ce que Sepp Kuss va déjà se mettre à la barre dans le premier col, sachant qu'il y a encore le mur de Peguer? On rappelle que Wout Van Aert est à l'avant et qu'ils n'ont plus beaucoup de grimpeurs avec Vingegaard hormis Sepp Kuss.
Il fait chaud, hein, il fait très chaud encore sur la route du Tour. On voit Damiano Caruso demander à la moto fraîcheur un bidon et s'asperger d'eau. Il a le maillot grand ouvert et c'est compliqué encore cette étape. 20 secondes d'avance pour Damiano Caruso sur le gros groupe qui est rescapé de la grosse échappée avec notamment Wout Van Aert et quelques Français à l'arrière. Il y a des garçons qui commencent à être en difficulté, notamment Pierre Roland. À l'instant, on nous annonce via Radio Tour que Pierre Roland a du mal à suivre le rythme du peloton.
Ah oui, malheureusement pour Pierre Roland, qu'on espérait qu'il puisse se refaire la cerise dans les Pyrénées.
Oui, mais là c'est pas grave.
Il souffre d'une maladie.
Oui, et puis bon, là, il va pas gagner l'étape aujourd'hui. Ça va certainement se jouer dans l'échappée. Le groupe Eto va se former dès le pied de ce port de l'Hers. Lui, il faut qu'il essaye de récupérer, entre guillemets, sur cette étape-là. C'est un très bon grimpeur. Il va se mettre dans le groupe Eto. Il va pas être dans le mal dans ce groupe Eto pour essayer de viser l'étape de demain ou d'après-demain.
Il est avec Caleb Ewan, avec Peter Sagan, avec Fabio Jakobsen. Donc, le groupe Eto est en train de se mettre en place. En revanche, ça sera beaucoup plus compliqué pour Marc Soler, l'équipier de Tadej Pogacar, qui est désormais à 22 minutes de la tête de course.
Et ça accélère en tête du groupe de poursuite derrière Caruso, avec deux garçons qui viennent de s'extraire. C'est notamment le cas de Alexandre Vlasov, le
de la
formation Bora, et Tim Wellens. Là, il y a du costaud qui est en train de sortir, Jérôme.
Bah oui, Vlasov, c'est le coureur le mieux placé de cette échappée. Il vise une remontée au classement général et bien sûr, sur le papier, un des meilleurs grimpeurs. On voit que tous les autres coureurs de cette échappée suivent Vlasov quand il attaque. Lui, il ne faut pas qu'il s'occupe des autres, il faut qu'il fasse sa montée. Les meilleurs réussiront à rester avec lui. Les autres vont sauter, mais s'ils visent un rapproché au classement général, faut pas qu'ils s'amusent à attaquer ou à suivre les attaques. Faut qu'ils montent comme un chrono.
Et on voit que Van Aert réagit aux attaques de Vlasov, justement. Hein. Van Aert, il a aussi pour protéger le maillot jaune de Vingegaard. Ça continue de flinguer. On va retrouver la moto RMC avec Arnaud qui se trouve derrière, je crois, ce groupe de 29 qui n'est plus du tout de 29. Arnaud Souk, non, il n'y a plus de moto, il est parti.
Oui, pardon. Si, je suis là. Dis-moi, excuse-moi,
non, je t'ai pas entendu. Je te lançais pour savoir ce qui se passait justement dans ce groupe qui continue de se décomposer par l'avant et par l'arrière.
Ouais, par l'avant et par l'arrière, et Tim Wellens qui vraiment passe par tous les étapes, puisqu'il y a quelques secondes c'est lui qui avait relancé la machine dans ce groupe, et là il est en train d'être de nouveau lâché en compagnie de Mickaël Honoré qui lui aussi fait l'élastique. Attention, ça revient derrière avec Nathan Van Hooydonk. On a également, il me semble, Olivier Legac qui ne va pas tarder à revenir dans ce groupe, et puis depuis tout à l'heure c'est quand même assez compliqué pour Mathieu Burgodeau qui fait aussi l'élastique, qui parvient à tenir dans, on va dire, ce gros paquet rescapé du groupe échappé. Il y a également Dani Martinez dans ce groupe-là. Et je vous le disais, donc pour honorer, pour Burgodo, c'est un petit peu compliqué, mais pour l'instant, il s'accroche aux roues, on va dire, de ce groupe Martinez Van Aert.
Avec Vlasov qui en replace une à l'instant, mais tout de suite pour sauter dans sa roue, Valentin Madouas, le peloton, lui qui est à 8 minutes 30 et un équipier de Jonas Vingegaard en difficulté, c'est Christophe Laporte qui à son tour est en train de
sauter. Il a beaucoup donné quand même depuis le début de l'étape et désormais il va rentrer tranquillou jusqu'à Foix. Il a fini de faire son boulot, il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Il me semble avoir vu également Mats Pedersen, c'était à l'arrière du peloton maillot jaune. 8 minutes 20, c'est-à-dire que Vlasov est à peu près à 2 minutes du maillot jaune virtuel tout de même. Ça continue de grimper, Cyril. Il va falloir quand même commencer à s'inquiéter de ce garçon, non? Toujours pas?
Oui, il faut toujours s'inquiéter, tout du moins rester quand même très attentif à l'évolution des écarts. Mais on est encore loin de l'arrivée. N'oublions pas qu'on n'a fait qu'un tiers du col de l'Hers, du port de l'Hers, pardon. Et puis qu'on a quand même aussi le dernier col. Pour l'instant, l'écart avec le peloton est de 8 minutes 23. Mais c'est assez amusant, c'est que dans le peloton pour l'instant, eh bien, on a hissé le drapeau blanc.
C'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a plus personne. Ils ont déjà grillé la porte aussi, les Jumbo. Ils n'ont plus grand monde, on rappelle qu'ils sont quand même réduits à 6 et qu'il ne faudrait pas abandonner complètement Vingegaard. Donc c'est difficile à la fois de protéger le maillot jaune, tout à l'heure des attaques de Pogacar, et de le protéger aussi des attaques d'un Vlasov qui peut se rapprocher dangereusement au classement général.
Et c'est ça va jouer là-dessus, on le sait, les Pyrénées, et on y entre là via la porte ariégeoise. Et à l'instant, Marc Hirschi, lui, est lui aussi distancé. Donc chaque grosse équipe est en train de perdre des éléments un par un, et ça peut se jouer là-dessus. Finalement, on s'y attend à finir avec un mano à mano entre Vingegaard et Pogacar. On va voir à quel moment ça va arriver, mais on est bien parti pour ça. Damiano Caruso est à 6 km du sommet du port de l'Hers. Il possède plus que 9 secondes sur les hommes partis derrière lui, Storer et Woods.
Voilà, Storer et Woods qui sont en train de revenir sur l'Italien de la formation Bahreïn. Ils ne sont plus qu'à une cinquantaine de mètres derrière. Storer qui fait une belle impression, il est sorti un peu à contre-temps derrière Caruso. Il revient tout doucement, Jérôme. C'est un bon grimpeur, ce garçon.
Oui, c'est un très bon grimpeur, bien sûr. C'est pour ça que Marc Madieu et son équipe ont été le chercher, pour qu'il assiste Thibaut Pinot et David Godu en montagne. Elle est sortie avec Michael Woods, c'est un bon compagnon de route dans ce type de montée. Ils vont revenir gentiment sur Caruso et vont former un trio à l'avant. Ils ont déjà pris une minute d'avance quand même sur le groupe Wout Van Aert, donc les trois coureurs montent très très bien. C'est toujours mieux d'être que 3, mais de bien s'entendre, que d'être 20 ou 29 comme ils étaient tout à l'heure, avec des coureurs qui sautent des relais. Donc si les 3 s'entendent bien, pourquoi pas.
On fait, Christophe, juste pour faire le point sur ces deux équipes, UAE et Jumbo, si on regarde l'équipe de Tadej Pogacar, il a à côté de lui Mikkel Bjerg. Pourquoi tu souris?
Je viens de le faire.
Ah oui, tu as raconté. Pourtant, j'étais en train de t'écouter. C'est incroyable, ça. C'est fou.
Non, je ne l'ai pas dit à l'antenne. Je l'ai fait dans ma tête.
Ah oui, je me semblais bien. Je croyais que je devenais fou avec la chaleur.
La tête de Jérôme,
c'est incroyable.
Pourtant, il y a un bordel là-dedans.
Tadej Pogacar donc, est accompagné de Bjerg et Maika. À l'avant, il a Brandon McNulty qui est dans l'échappée, mais il a perdu Marc Soler qui est 25 minutes derrière, et Marc Hirschi. Ça veut dire qu'il a plus que deux hommes déjà avec lui dans ce groupe. Il peut compter sur Brandon McNulty qui est devant. Pour ce qui est de la Jumbo Visma, Jonas Vingegaard a avec lui Wood Van Aert, puisque Wood Van Aert est à l'avant en compagnie de Nathan Van Hooydonk. Donc ça fait deux hommes devant. Christophe Laporte vient de sauter, il n'a plus donc que Sepkus et Tiche Benoît. On est à deux partout,
et ça fait pas beaucoup.
Deux partout balle au centre, mais deux Jumbo avec un coup d'avance à l'avant, pour un seul pour l'équipe de Pogacar avec McNulty.
Alors que Valentin Madouas lui aussi tente de s'extraire du groupe maillot vert. Madouas qui va tenter de rattraper Storer, qui est donc dans le groupe de tête. Ils sont désormais trois, Storer, Woods et Caruso. Storer qui a remporté le classement de la montagne de la dernière Vuelta, et qui avait remporté deux étapes de montagne cette année-là. C'était donc l'année dernière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Marc Madiot l'a recruté au sein de la Groupama FDJ.
Je me suis permis, Christophe, j'ai dit c'est bien joué. J'ai vu une petite grimace de Cyril. C'est bien joué ou pas de la part de Valentin Madouas, là, de fausser compagnie au groupe Wout Van Aert et d'essayer de revenir sur les trois hommes de tête?
Déjà, il a une 10 à combler. Il a un équipier à l'avant. Je me pose des questions sur la pertinence de cette réaction de Valentin.
Il y en a un qui va recevoir un texto ce soir qui va se faire pourrir.
Mais il faut surtout que l'information passe très vite à l'avant pour que Storer ne roule plus à l'avant.
Ouais. Dites,
moi, j'ai un coureur qui rentre derrière, je roule pas, débrouillez-vous pour Woods et Caruso. Comme ça, Valentin ferait pas un effort inutile. Au moins, ça servirait à Storer à l'avant.
Et pour l'instant, les oreillettes ne semblent pas fonctionner car c'est Storer qui passe les relais et qui est en tête de ce groupe d'échappés à l'avant.
Arnaud, tu es à quel échelon? Comme on a trois hommes devant, on le rappelle, Caruso, Woods et Storer, derrière Valentin Madouas, et puis encore derrière le petit groupe à une minute, tu es placé comment?
Je vais être dans quelques instants à l'échelon du groupe Van Aert Martinez, voilà, puisqu'on a, il y a beaucoup de coureurs qui ont été distancés, donc dont Wellens et Honoré, que j'ai en ma compagnie en ce moment même, et on va retrouver là à 5 km du sommet dans quelques instants le groupe Van Aert.
Alors, on a entendu la moto qui accélère, la moto de Marco. Vous avez le droit de doubler comme ça dans les ascensions. Raconte-nous un peu, Arnaud, travail.
C'est un peu réglementé, hein.
Ouais.
Mais raconte-nous. C'est un peu réglementé. Il y a beaucoup. Alors c'est vrai qu'on en parle jamais, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle de régulateurs et d'arbitres en course, en fait, qui eux-mêmes sont à moto ou à bord des voitures de direction de course, hein, les fameuses voitures rouges qu'on a coutume de voir si on se rend par exemple pour le public au départ du Tour de France, où on les voit régulièrement passer sur la route. Donc il y a des arbitres qui font un petit peu, allez, j'allais dire la police, c'est pas, ils font pas vraiment la police si vous voulez, mais en gros ils autorisent ou pas à passer les différentes motos, les différentes voitures de directeurs sportifs en fonction de l'étroitesse de la route, en fonction des écarts aussi entre les coureurs, les différents coureurs qui sont aux différents échelons de la course. Donc voilà, l'essentiel étant évidemment, alors, ni d'handicaper les coureurs, ni de leur procurer par exemple un avantage que pourrait être particulièrement sur des parties plus plates, une aspiration par exemple d'une moto ou d'une voiture. Voilà, tout simplement.
Très bien, merci de ces explications pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent parfois ce qu'on a le droit de faire avec la moto RMC à l'avant de la course.
On précise que ces régulateurs là qui sont sur les motos et qui font partie de l'organisation sont d'anciens coureurs qui maîtrisent parfaitement la course et toutes ces règles. Tu les connais bien, Jérôme?
Oui, je les connais bien parce qu'on était tous dans la même équipe quasiment. Chez Sorce Jasson, Yannick Talabardon, Jean-Marc Marino, Cédric Coutouli ou Franck Perk aussi. Donc ils sont quatre en général, ils tournent. Il y en a derrière les échappés, il y en a derrière le peloton, et c'est eux, comme l'a dit Arnaud, qui vont donner l'autorisation aux voitures de directeurs sportifs, aux motos, de monter derrière quel coureur ou tel coureur, et qui, quand il y a des chutes, c'est souvent les premiers qui sont sur le lieu de la chute. Donc vraiment, il y a un dispositif hyper important, et c'est des pièces maîtresses du dispositif sur les courses, ces régulateurs avec les vestes rouges sur les motos.
Tu veux pas leur glisser un petit mot pour qu'ils laissent passer la moto de Marco?
Faudrait qu'ils me payent un peu plus, Marco.
Ils sont très cool une fois que l'arrivée est faite, hein. Il n'y a pas de souci, mais alors je peux vous dire que sur la route ça rigole pas. Si vous passez pas, vous passez pas. Faut pas essayer de la jouer filou, sinon vous finissez.
Si vous passez sans être autorisé,
ouais, c'est ça. Vous finissez à la permanence le soir.
Il y a des motos qui se font, qui se font régulièrement. Je sais pas si ça avait été le cas cette année, mais régulièrement il y a des motos qui se font suspendre pour un jour ou plus, voilà, pour comportement non approprié en gros sur la route de la course.
D'ailleurs,
on peut pas faire n'importe quoi, ça c'est important de le signaler.
On peut le dire parce qu'il y a prescription et Marco peut confirmer. Il a fini un jour à la permanence.
Il a fini en tôle,
convoqué, Marco. Convoqué à la permanence. Il avait fait quelque chose de très très mal. Hein.
Tu peux
nous le dire, Marco. Peux nous le raconter.
Qu'est-ce que
tu avais
fait ce jour-là, Marco, notre motard? Il va ouvrir son micro.
Non, c'est faux.
Tu as fini à la permanence. Je le sais, moi. J'ai des dossiers. Un jour où tu avais tapé dans la voiture rouge de la direction.
Ah oui, mais bon, c'était pas de mon fait. Hein. J'étais poussé par la moto de... C'était Jalabert, d'ailleurs, à l'époque. J'ai rebondi sur la voiture de Monsieur Prudhomme, retouché la moto de Jalabert et renouveau tapé la... Mais bon, je me suis expliqué et tout s'est très bien passé.
Mais on va pas au sprint avec Laurent Jalabert, tu sais, ça joue des coudes et ça, on t'avait prévenu. Faut pas jouer avec cela.
Et on rappelle également Marc et Arnaud qui a une priorité qui est donnée à certaines motos, notamment la moto image, celle qui filme évidemment la tête de course. Elle a quasiment tous les droits, ou presque.
Oui, globalement, elle fait à peu près ce qu'elle veut, mais enfin, ça n'empêche pas les arbitres sur le radio tour régulièrement, la direction de course, de lui dire qu'elle est trop près à certains endroits. On l'a entendu se faire réprimander. Il y a même, pour tout vous dire, les hélicoptères de la télé qui parfois se font réprimander parce qu'ils sont trop bas et qu'ils créent du vent. Et c'est arrivé. Hein. Alors, je sais plus sur quelle étape c'était en début de tour. Je me demande si c'était pas sur l'étape entre Calais et Dunkerque où un hélicoptère de France Télévisions s'est un petit peu fait réprimander. Et c'est c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Je me souviens aussi de cas les années précédentes. Et donc effectivement, oui, tout ça pour dire qu'il y a de nombreux types de véhicules qui circulent. On a des motos photographes qui ont voilà, le droit de faire pas mal de choses. On a des motos caméras qui elles sont à différents échelons de la course et qui elles sont directement avec les coureurs. Là par exemple, il n'y en a pas aux côtés actuellement de Mathieu Burgodeau qui est en train d'être lâché, tout comme Dani Martinez du groupe Van Aert. Mais voilà, il y a beaucoup de motos et il y a plus ou moins de droits en fonction des motos. Les motos sont, on est plutôt pas trop mal lotis, mais enfin on peut pas non plus faire n'importe quoi. En général, en fin de course, les motos sont, il n'y a plus que la moto du diffuseur à la télévision et de RMC. Donc on est plutôt tranquille en général et on est plutôt bien servi et bien lotis.
Mais Marc, en tant qu'ancien lieutenant, enfin sous-officier de l'armée française, respecte évidemment la discipline à la lettre.
Je croyais que tu allais faire référence aux hélicoptères et à un certain Giro en 1984, puisqu'ils peuvent avoir une influence, n'est-ce pas, monsieur Cyril Guimard ?
Va pas nous l'énerver, le sortir de la sieste.
Cyril, ouais, qui estime que le Giro a été perdu par Laurent Fignon en 1984 dans un contre-la-montre à cause de l'hélicoptère. Et oui, ouais, et oui, il alors avait il eu une influence.
Il nous l'expliquera tout à l'heure, mais là on est obligé de s'arrêter. On fait un tout petit top course tout de même, puisqu'on est à 2,8 km du passage au port de l'Hers, Pierre-Yves.
Oui, avec à l'avant donc un petit groupe. Je suis en train de reprendre mes petites notes. C'est Damiano Caruso qui avait allumé la mèche aujourd'hui dans le port de l'Hers. Damiano Caruso qui est en compagnie de Storer et de Woods. Il possède 26 secondes d'avance sur un petit groupe de contre où on retrouve Geschke, McNulty, Jorgensen, Van Hooydonk, Wood, Van Aert, Vlasov est présent, et également Valentin Madouas, 40 secondes, et puis quelques autres coureurs. Et puis surtout, on le rappelle, le peloton lui est à 8 minutes 42. Ça veut dire que Vlasov est en train de grappiller des places au classement général.
Allez, on revient dans un instant pour le passage au port de l'Hers. Il est 15h44 sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux. 15h48 dans l'intégrale Tour de France, la 16e étape. Nous sommes dans la première grosse difficulté des Pyrénées, le port de l'Hers, que les hommes de tête ne vont pas tarder à franchir. Ils sont encore à 1,3 km de ce passage de col de première catégorie, et l'avance qui est conséquente vis-à-vis du peloton. 8 minutes 13 d'avance pour les trois hommes de tête, Pierre-Yves.
Oui, on savait que ça allait bouger dans ce port de l'Hers. Il y a plusieurs étages de friction actuellement, avec un petit groupe de tête à 54 km de l'arrivée. On l'a dit tout à l'heure, avec Storer, avec Caruso et avec Woods. Et à quelques... pas très loin derrière. Même ils ont été... ils ont été rattrapés. Un instant, exactement. Ils ont été rattrapés par le groupe Van Aert avec Geschke notamment. Donc un petit groupe d'une dizaine d'unités qui possède 8 minutes 13 maintenant d'avance sur le peloton. 1 km encore dans ce port de l'Hers. Et dans le peloton, on a vu une accélération des hommes d'Henrik Maas. On a regardé ce qui se passait du côté de la Jumbo, et puis on a laissé partir Sepp Kuss en compagnie de Vingegaard. A vu Henrik Maas accompagné de deux équipiers partir pour la Movistar. Il y a déjà Gorka Izagirre et Matteo Jorgensen qui sont à l'avant, mais cette équipe Movistar, elle va surtout courir, Jérôme, pour aller chercher Alexandre Vlasov qui est un petit peu devant au classement.
Voilà, pour réduire l'écart sur Vlasov, hein, Henrik Maas a que 34 secondes d'avance sur Vlasov, donc ils essayent de faire un rapproché. On a vu Maas partir avec Mühlberger et Verona. Est-ce qu'ils vont retomber sur leurs deux coéquipiers à l'avant? On verra. En tout cas, à l'arrière, Vingegaard a plus que Sepp Kuss avec lui.
Et où est Pogacar? Où est Pogacar? Eh bien, il est bien caché là, sur la droite de la route. On va quand même le surveiller. Il a Louis Mentis qui est juste devant lui, la garde Ineos, mais il a tendance à se retourner beaucoup, à écouter aussi à l'oreillette. Peut-être qu'il voudrait savoir où sont les forces en présence, et ouais, puis savoir ce qu'il faut faire.
Il fait un petit état des lieux, il regarde les coéquipiers de Vingegaard qui y restent, il regarde un peu les visages des autres, que ce soit Romain Bardet, David Godu ou Nero Quintana par exemple. Il regarde pour l'instant.
Il regarde les développements aussi éventuellement.
Éventuellement, il va regarder le coup de pédale. Est-ce qu'il a l'impression qu'un Geraint Thomas, un Vingegaard ont un coup de pédale aérien ou pas? Vous savez, on prend beaucoup d'informations juste en regardant les autres autres coureurs. Et lui, comme il doit aller récupérer 2 minutes 22, bien sûr qu'il doit se faire une idée pour voir si Vingegaard et les autres sont bien, ou si à l'inverse ils ont un petit coup de moins bien, pour passer à l'offensive peut-être d'Escol là.
Et un garçon va sans doute faire une très belle opération vu du maillot de meilleur grimpeur, Simon Geschke, porteur du maillot à poids, qui est en tête à maintenant 300 mètres du passage au Port de l'Air. S'il va empocher de gros points là, en vue d'aller ramener ce maillot à poids sur les Champs-Élysées.
Oui, il nous épate, hein, Simon Geschke, qui fait vraiment un très très beau Tour de France. Il surveille derrière lui qui peut aller éventuellement chercher des points, mais son principal adversaire tout à l'heure était Nelson Poles. Il n'est pas là. Résultat, eh bien Simon Geschke qui souffle content, quand même. Il n'a pas besoin de sprinter, mais oui, il est très content. Et il voit Wout van Aert ne pas aller lui disputer les points. Wout van Aert, il a ce qu'il faut avec le maillot vert. Et donc Geschke qui prend les points ici au Port de l'Hers, classé en première catégorie, comme le mur de Péguer tout à l'heure.
Très bien, 53 km 300 désormais de l'arrivée, donc pour ce groupe de tête, alors que Vlasov en finit à son tour. Vlasov décevant quand même, hein, c'est quand même considéré, il est quand même considéré comme le meilleur grimpeur de ce groupe, ou quasiment, Jérôme.
Bah sur le papier, oui, c'est le meilleur grimpeur, hein, c'était un prétendant au top 5 à Paris. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu dans le dur, alors il a que 25 secondes de retard. Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans la descente? C'est possible. On a vu Dylan Teuns, lui, qui allait faire son retour dans le groupe de tête avec Van Aert et son coéquipier Caruso. Vlasov, il est accompagné de deux coureurs. Il peut rentrer, mais vu ce qu'il nous montre là, en plus ce col du Port de l'Hers, il lui convient mieux normalement que le mur de Péguer. Voilà, c'est pas du grand Vlasov. Est-ce que c'est dû à un problème de jambe, ou est-ce que c'est simplement des effets encore de sa chute?
Attention, ça bouge dans le groupe maillot jaune, puisque comme Henrik Maas est parti tout à l'heure, eh bien s'il y a des bons de sortie, Louis Mentis se dit, eh bien moi aussi je vais y aller. Et là Sepkoski réagit cette fois. En revanche, il accélère un petit peu, Louis Mentis, qui n'arrive pas à faire la différence pour le moment. 52 km encore à parcourir. Le groupe Vlasov est à 27 secondes. Le groupe Maas est à 7 minutes 30. Et le peloton, lui, avec Louis Mentis donc, et David Gaudu, qu'on aperçoit juste à côté de Pogacar, Geraint Thomas et Sepkoski et Vingegaard, bien sûr, est à 8 minutes 15. Marc Soler, je vous donne de ses nouvelles quand même, puisqu'on l'a dit depuis le début de cette retransmission. Il est en difficulté. Il est à une demi-heure de la tête de course.
Il n'y a plus grand monde quand même autour des deux grands leaders de ce Tour de France que sont Vingegaard et Pogacar, et on n'est qu'à la première étape des Pyrénées. Cyril, il risque de se retrouver quasiment tout seul demain et après-demain dans les grandes étapes pyrénéennes.
Oui, c'est vrai, mais tout le monde est un petit peu à la même enseigne. Si on prend Pogacar et Vingegaard, n'oublions pas qu'ils ont devant, ils ont un petit grenier devant avec Wout van Aert et McNulty. Donc pour l'instant, ils ont deux équipiers à l'avant qui peuvent agir à tout moment, à partir du moment où l'un ou l'autre pourrait être en difficulté.
Notamment dans le mur de Péguer qui sera franchi tout à l'heure, dernière difficulté du jour. On va retrouver la moto RMC à l'avant de la course, peut-être déjà dans la descente, hein, Arnaud.
Oui, déjà dans la descente, un début de descente qui est pas des plus compliqués. On n'est pas sur une énorme pente. Pour vous dire aussi, parce qu'on n'a pas donné de nouvelles de Valentin Madouas tout à l'heure, qui était parti en chasse, qui était parti en contre-attaque. Il a été malheureusement rattrapé et même dépassé par de nombreux groupes. Il évolue actuellement en 14-15e position, là juste derrière le groupe Vlasov. Il va essayer de rentrer. Il est rejoint à l'instant par Tony Galopin, qui lui aussi avait été lâché. Ils vont essayer de rentrer sur le groupe Vlasov au profit de la descente. Je pense qu'ils vont y parvenir. Alors que là, Mulberger, à l'instant, je ne sais pas ce qui se passe. Izaguirre qui s'arrête sur le côté droit de la route, qui est complètement à l'arrêt. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Gorka Izaguirre, le coureur de la Movistar, en tout cas, qui était à l'arrêt sur le bord de la route il y a quelques instants.
Crevaison, peut-être, incident mécanique.
Non, il était parti avec Maas. Il s'est mis à la planche pour creuser l'écart avec son leader. Et puis ensuite, il s'est garé.
Non, je pense qu'il attend Maas, justement. Lui, il était à l'avant. Attend Maas pour essayer de faire un rapproché et revenir sur Vlasov.
Henrik Maas, 10e au classement général ce matin, avec un retard de 9 minutes 58.
Stratégie, hein, chez Movistar. On a beaucoup ri.
Et Pogacar!
Pogacar qui attaque à 50 km de l'arrivée. Est-ce que Vingegaard va réagir? On va voir ça tout de suite. Pogacar qui en a mis une, qui est partie de l'arrière.
Ouh, en tout cas, elle est violente, cette attaque de Pogacar. Il a déjà pris 30 mètres d'avance. Il avait prévenu, il avait dit, j'attaquerai dès que je pourrai. pourrait. Eh bien, ça a marché. Pour le moment, Vingegaard est en train de réagir. Vingegaard qui est seul à... Oui, il n'y a personne. Garin Thomas, il n'arrive pas à suivre. Ça y est, on y est déjà. Dans le mano à mano, dès le port de l'Hers. Quintana, Garin Thomas n'arrive pas à suivre. Vingegaard est dans la roue de Pogacar. Round numéro 1, messieurs.
Voilà la première escarmouche entre Pogacar et Vingegaard. Vingegaard qui est revenu assez facilement dans la roue de Pogacar une nouvelle fois, Jérôme. Hein.
Oui, il est revenu très facilement. Il a temporisé dans un premier temps en laissant travailler un petit peu Sepkoski et après il a fait le jump. Il est revenu très très vite et dès que Pogacar a vu que Vingegaard était dans sa roue, il se relève pour l'instant. Voilà, c'est une première alerte pour Vingegaard. Il sait que Pogacar va valoir. Ben, éliminer, oui, peut-être ça, mais surtout pour tester Vingegaard dans un premier temps. Et voilà, maintenant c'est Maika qui est revenu sur lui, mais Pogacar le suit pas pour l'instant.
Non, parce que Vingegaard, en fait, Vingegaard fait signe à Pogacar, bah vas-y, roule, prends la main. Et Pogacar dit non, voilà, c'est Maika qui va faire le train. Et Romain Bardet, lui, est bien revenu. Geraint Thomas est là, attaque encore. Et bien la voilà, la revanche de ce qu'on avait vu dans les Alpes. Vous m'avez attaqué sans cesse, vous m'avez harcelé, et bien vous allez voir ce que vous allez voir. C'est parti, Pogacar qui en remet une, cette fois à Vingegaard. C'est la revanche de Pogacar aujourd'hui avec son maillot blanc. Il était en jaune, cette fois il est en blanc, et Vingegaard qui réagit une nouvelle fois.
Et voilà, Vingegaard qui réagit et qui revient avec une facilité déconcertante dans la roue de Pogacar.
Attaque hein. De David Gaudu derrière. David Gaudu se dit, ben moi je vais peut-être ne pas m'occuper de ce qui se passe entre ces garçons, je vais faire ma course, et bien je vais les laisser, je pars tout seul. David Gaudu qui est en train de lâcher Vingegaard et Pogacar, et Geraint Thomas lui se dit, bah oui, on va les laisser jouer et puis on va voir ce qui va se passer hein. Allons messieurs, puisque vous voulez jouer que tous les deux, nous on est dans la même cour et on a peut-être un rôle à jouer.
Voilà, Gaudu qui est rattrapé à l'instant même par Geraint Thomas. Quintana a également pris la roue du grimpeur gallois de la formation Ineos. Geraint Thomas qui prend le relais désormais. Vingegaard en troisième position, Pogacar n'est pas très loin, mais on est en train d'éliminer petit à petit tout le monde. Ils sont combien? Ils sont une dizaine dans ce groupe désormais. 13
avec un garçon qui a du mal à suivre à l'arrière. Louis Mentis est encore là, on aperçoit Romain Bardet, on le disait, il y a Nairo Quintana, il y a David Gaudu, et chaque homme, Vingegaard et Pogacar, a encore un équipier, Sepkus et Maika.
C'est dur,
oui,
c'était pas Bardet qui était devant. Son coéquipier se relève d'ailleurs.
C'était pas Bardet qui était devant. Romain Bardet est lâché. Pogacar qui vient de jeter là une gourde, qui en récupère une autre et qui boit rapidement, et Sepkus remet le train avec Vingegaard dans sa roue.
Eh ouais, Romain Bardet qui est en difficulté à l'arrière de ce groupe, il a été largué une nouvelle fois, peut-être un coup de chaleur sur la tête de Romain Bardet, alors que David Gaudu lui est dans la roue de Pogacar en 6-7e position. Sepkus a repris la direction des opérations dans ce groupe maillot jaune.
David Gaudu qui est seul, on a aperçu Thibaut Pinot à une trentaine de mètres derrière avec Kevin Genies peut-être.
Exactement, hein, ils sont dans le groupe avec Romain Bardet justement. Si les coéquipiers de Romain Bardet arrivent à boucher le trou, David Gaudu retrouvera deux coéquipiers également.
Bob Jungels est là dans ce groupe avec Adam Yates également. Voilà ce petit groupe. Philippe Gilbert s'est glissé là parce qu'il était devant tout à l'heure. Il arrive pour l'instant à maintenir le train. 47 km encore à parcourir pour les hommes de tête. 18 secondes d'avance sur le groupe Vlasov. Le groupe maillot jaune lui a accéléré, on le disait, avec ses attaques multiples de Pogacar. Ils sont à 7 minutes 40, mais ça va se calmer puisqu'à l'instant, ce
Pogacar
groupe.
Pogacar qui attaque dans la descente.
Voilà, au moment où j'allais dire ça va se calmer parce qu'on est au sommet du port de l'Hers, c'est bien Pogacar va maintenant jouer en descente. C'est parti, on va avoir un numéro de funambule entre les deux hommes. Pogacar dans sa roue, Vingegaard, attention parce que là,
à tout perdre.
Voilà, il peut y avoir des incidents dans cette descente. Ils vont être à la rupture, à la limite. Pogacar dans sa roue, Vingegaard, pour l'instant ça tient. Et il y a un homme là qui vient d'être passé, Brandon McNulty peut-être, qui était là.
Van Hooydonk.
Pogacar a décidé de tout tenter aujourd'hui. Ça ne marche pas lorsqu'ils sont en montée. Alors il attaque dans la descente. Mais pour l'instant, Vingegaard est dans la roue du maillot blanc. En tous les cas, Pogacar a décidé aujourd'hui, Cyril, de tout tenter pour faire exploser le maillot jaune. Ça sera compliqué parce qu'il a l'air très solide. Mais quel panache de la part de Pogacar tout de même.
Oui, très belles offensives. Est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu trop? Est-ce que c'est pas suffisamment bien ciblé? Parce qu'attaquer dans la descente, si on regarde bien, Vingegaard, il descend aussi bien que Pogacar. Pogacar. Donc là, il fait des efforts un petit peu superflus pour essayer de distancer.
Mais c'est pas un aveu de faiblesse pour Pogacar d'attaquer dans la descente finalement. Est-ce qu'il se dit dans la montée, j'arrive pas, je vais tenter dans la descente.
Oui, c'est essayer de le pousser à la faute.
Oui, voilà. Aussi. C'est bien sûr. Bon, faut se servir de tous les terrains, hein, c'est sûr. Et puis surtout, on a dit Vingegaard, il a deux coéquipiers à l'avant. Alors plus qu'un maintenant, Van Aert, parce que Van Hooydonk vient d'être pris, mais il va avoir un petit peu plus de main d'œuvre pour aller chercher le mur de Peguer. Il a toujours Kuss et il a Van Hooydonk du coup qui s'est fait reprendre de l'avant.
Est-ce que le principal danger dans une descente, quand on est deux par exemple comme ça et que ça va très vite, le principal danger, il est pour celui qui est devant ou pour celui qui est derrière? Parce que lui au moins
c'est celui qui est derrière.
Voilà.
Pour deux raisons. Il peut tomber tout seul, celui qui est derrière, et si le premier tombe, il y va aussi.
Donc il vaut mieux être
et d'ailleurs il se place devant. Vingegaard se remet devant Pogacar.
Oui, pour ralentir le rythme évidemment, parce que derrière ça va rentrer tranquillement avec donc le Sepp Kuss notamment, le dernier coéquipier de Vingegaard. On rappelle que le maillot vert, autre coéquipier de Vingegaard, se trouve à l'avant avec pas mal d'avance. Voilà, la troisième escarmouche n'a rien donné, alors que Romain Bardet lui est en difficulté, attendu par trois équipiers. Romain Bardet, une nouvelle fois, qui connaît un jour 100, ça commence à faire beaucoup pour le leader français de la DSM, Cyril.
C'est peut-être pas par hasard que David Godu a attaqué dans le final.
Ouais, voilà. Il a avec lui Ekov qui était dans l'échappée tout à l'heure. Leknesoun est aussi en sa compagnie et puis un troisième équipier pour essayer de rentrer le plus vite possible.
Allez, il est 16h01, on a loupé les infos, mais on va les rattraper dans quelques instants. Ils sont dans la descente, les infos. Elles sont dans la descente, on va les rattraper dans un instant. Et on revient évidemment le plus rapidement possible sur la route du Tour de France.
RMC Intégral Tour.